enregistrer avec l'intention de venir donc aider quelques mois et en pensant qu'on allait m'accueillir les bras ouverts, mais pas du tout. En fait, j'ai eu une rencontre avec les Jalais qui m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas besoin de volontaires, que les volontaires voulaient tout transformer selon leurs critères et rapidement, alors que le changement devait s'opérer de l'intérieur. Et c'était quand même comme une douche froide, parce qu'avoir fait 8000 km pour s'entendre dire qu'on n'a pas besoin de vous, mais en même temps, ça a été une très belle rencontre. Je pense que c'était par la façon dont ils m'avaient parlé, et je suis repartie avec une vision différente. J'ai continué mes études, j'ai eu la chance de voyager, de partir en Amérique du Sud, là où était Justo, donc au Pérou, et à Sri Lanka. Et ensuite, je suis donc devenue missionnaire et je suis rentrée dans notre congrégation à Lille, là où j'étudiais. Je suis restée pour terminer ma thèse, pour travailler un peu comme médecin généraliste. Et après, je suis partie à Rome, un an et demi. Et ensuite, le Cameroun. En fait, je connaissais un petit peu l'Afrique parce que j'avais voyagé, un voyage de tourisme avec des amis. Et d'ailleurs, je m'étais juré que je ne vivrais jamais en Afrique. Donc, quoi, il ne faut pas trop jurer dans la vie. Et quand j'ai commencé la mission en Afrique il y a 32 ans, j'écrivais dans mes premières lettres « Je veux me faire africaine avec les Africains, comme grec avec les Grecs, ça vous dit quelque chose ?» Et j'ai vu que ce n'était pas si évident. Et je pense qu'au cours de ces années, Dieu qui nous accompagne toujours m'a fait évoluer de vouloir aider mon prochain à demander le don, parce que le pape le qualifie comme don, le don de la proximité. Et cette possibilité de vivre proche des gens avec qui nous sommes là où ils nous envoient. Alors je vais donc expliquer un petit peu en quoi a consisté ma mission. Bon, il est vrai que j'ai très peu consulté comme médecin généraliste, un petit peu dans un centre de santé et à la prison, mais c'était il y a longtemps. Mais j'ai travaillé très vite comme assistante technique à la conférence épiscopale du Cameroun. Donc vous voyez, c'était plus un travail de santé publique. Et ensuite, j'ai eu la tâche de coordonner les activités de santé dans les dispensaires du diocèse de Yaoundé. Donc ça concernait plus la formation, la gestion du personnel, la gestion des médicaments, les commandes groupées. Et tout ça entre autres choses parce qu'il y avait également des activités de sensibilisation et surtout dans le domaine de la sexualité. Et en 1991, j'ai commencé à mettre en place un projet de lutte contre le sida. Au début, ce n'était pas très facile parce que le personnel de santé ne voulait pas trop s'engager. On avait tous l'impression qu'on mettait le pied dans une fourmilière. Parce qu'en fait, nous n'avions aucun moyen, aucun médicament à ce moment-là. Le seul qui était en circulation, c'était l'AZT, la zidotimidine. Il coûtait 300 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 460 euros. Et ici, personne ne pouvait se payer un traitement à un coût mensuel qui correspondait à 10 fois le salaire d'une employée de maison ou d'un maître d'école. Alors, vous savez, les personnes infectées ne peuvent pas parler à leur entourage sans être discriminées, encore aujourd'hui. En Afrique, l'appartenance à un groupe est très importante, beaucoup plus qu'en France. Et sans ce lien, la personne perd son identité. Ce qui faisait dire que les personnes infectées par le VIH mouraient souvent de ségrégation et d'isolement avant de mourir de la maladie. Alors dans ce projet, nous cherchions une approche qui soit la plus globale possible, donc dans différentes composantes, médicales, spirituelles, par des entretiens individuels ou de groupe, psychologiques, à travers des centres d'écoute que nous avions créés, sociales, avec une réinsertion par des petits métiers. Il y avait également des visites à domicile, et nous avions le souci de les aider à pouvoir partager leur statut de séropositif dans leur famille, tout en maintenant la discrétion nécessaire. Et moi, au départ, je pensais que le premier besoin ressenti serait de recouvrer la santé, mais c'était plutôt de se réinsérer dans la société. Alors, nous les avons aidés avec des petites activités génératrices de revenus, c'est-à-dire qu'on leur prêtait de l'argent et il y avait un taux de remboursement pour pouvoir constituer un fonds qui permettrait d'aider d'autres personnes vulnérables. Et en fait, cela a redonné la dignité à ces personnes qui non seulement pouvaient revenir à des réunions familiales, mais aussi contribuer économiquement au soutien des membres de leur communauté. Et alors, elles retrouvaient le droit de parole et parfois le courage pour parler de leur statut. Et nous travaillons en même temps dans les paroisses pour permettre une meilleure insertion. Parce que si on demande à une personne de parler de sa maladie pour sensibiliser les autres, il faut aussi préparer la communauté à l'accueillir. Et par la suite, cette expérience m'a aidée pour former les futurs médecins à la faculté de médecine. Je me rappelle d'Oscar à qui le médecin avait annoncé son diagnostic en lui disant « tu es un mort ambulant ». C'est vrai qu'en Afrique, et cela peut être dû aussi à l'impuissance face à de nombreuses maladies, tout est payant ici. Et donc beaucoup de gens ne peuvent pas accéder aux soins. Eh bien, en Afrique, le personnel soignant ne fait pas de sentiments pour le malade et la relation est parfois très dure. Je parlais tout à l'heure du volet spirituel et c'est là que j'ai vraiment constaté la profondeur des personnes avec qui nous travaillions et qui devenaient nos maîtres. Nous apprenions d'eux parce qu'ils vivaient la vraie pauvreté évangélique qui est de dépendre de Dieu. Et leur vulnérabilité les rendait disponibles pour cette relation intime avec Dieu. Je me rappelle de conversations très émouvantes. Par eux, j'ai expérimenté comment cette pauvreté est une arme qui nous donne tout pouvoir sur le cœur de Dieu, parce qu'il est prêt à remplir ce vide. Je pense que vous connaissez le beau témoignage d'Anne Dauphine Julien. Je ne sais pas si vous, sûrement vous la connaissez, non? Et vous savez, dans une interview, alors qu'on lui demandait ce que la souffrance de perdre deux enfants, puisqu'elle a perdu deux enfants de leucodystrophie métachromatique, qu'est-ce que ça avait pu changer dans sa relation avec Dieu? Elle a répondu, maintenant je le tutoie. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Et cette attitude, je l'ai vue chez les personnes infectées. Une plus grande proximité avec Dieu et une profonde admiration pour nous qui les accompagnons. C'est vrai que nous ne pouvons pas vivre la souffrance des autres, mais nous pouvons les regarder de telle manière qu'ils se sentent aimables. Aimables, c'est-à-dire dignes d'être aimés. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. J'ai arrêté de travailler dans le domaine du sida il y a quelques années et maintenant ce sont des Camerounais qui ont pris la relève. Actuellement, comme je le disais tout à l'heure, je donne des cours d'éthique à la fac de médecine à Yaoundé. Mais la mission, elle ne s'exerce pas seulement dans le domaine médical. Nous avons aussi deux paroisses et je vais maintenant développer le côté communautaire de notre mission. Vous savez peut-être le charisme des missionnaires identes. Et en tout cas, je vais le résumer en disant que c'est de faire connaître notre Père Céleste en nous identifiant au Christ, le Fils, non ? Et en vivant sous l'action de l'Esprit-Saint, la conscience filiale. Nous vivons la sainteté en commun avec un chemin très concret, ce que nous appelons l'examen ascétique et mystique. Et notre apostolat s'exerce principalement avec les jeunes, quelle que soit leur religion. Peut-être les autres frères et sœurs compléteront, hein, c'est ma définition du charisme. Nous avons aussi une association qui s'appelle Jeunesse Identé. Et la Jeunesse Identé a pour but de faire découvrir et développer les dons et les valeurs que Dieu a mis en nous, notamment la générosité, l'honneur, qui est en lien avec la beauté, et l'authenticité. À travers notre relation avec Dieu, la nature et la société. Et cela en éduquant les enfants à l'extase. Alors c'est vrai que l'extase, c'est un mot un peu étonnant, mais le pape en parle aussi dans son encyclique, et notre fondateur nous a toujours parlé de cette loi que nous avons tous, la loi qui nous permet de sortir de nous-mêmes, pour nous enrichir, pour nous constituer. Alors la jeunesse Identé regroupe les enfants à partir de 7 ans. Mais en Afrique, ils viennent à partir de l'âge de 2 ans. Parce qu'en fait, c'est souvent leur grand frère de 7-8 ans qui doit les garder à la maison. Et donc, si on n'accueillait pas les tout-petits, bien les grands ne pourraient pas non plus venir. Et donc, nous faisons avec eux des activités tous les samedis, toutes les semaines pendant 3 heures. Les samedis pour les tout-petits, les dimanches pour les adolescents et les mercredis pour les jeunes. Et pour nous aider dans cette activité, il y a d'autres jeunes qu'on appelle professeurs, parce qu'ils doivent être modèles dans les valeurs. Ce sont un peu comme des grands frères et des grandes sœurs de tous ces petits, non ? Et dont certains ont été aidés avec des bourses scolaires. Donc en fait, on payait leur scolarité et on leur proposait de rendre ce service, de s'occuper avec nous des tout-petits. Ils sont à peu près une trentaine, dont bien sûr nos frères et sœurs camerounais missionnaires. Alors nous voudrions vous raconter beaucoup d'anecdotes, surtout avec les tout-petits. Par exemple, un petit garçon de 5 ans qui disait, parce qu'on fait l'évangile avec eux, et il dessine, non ? Et alors il racontait, Jésus a appelé ses apôtres en leur disant, « Venez avec moi et je vous ferai pêcheur d'hommes, poisson. » Parce que quand même, pêcheur d'hommes, c'est un peu spécial. Pêcheur d'hommes, poisson. Donc la grande chance que nous avons, c'est de pouvoir faire un apostolat commun, frères et sœurs réunis, avec la richesse de différentes nationalités, camerounaises, espagnoles, équatoriennes et françaises. Je ne parlais que de Yaoundé. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de la paroisse universitaire de Soa, que Rousteau connaît bien. Soa est une petite ville à 20 km du centre de Yaoundé, où se trouve le campus de l'université d'État, qui regroupe à peu près 40 000 jeunes, étudiant le droit, sciences économiques, sciences politiques et la diplomatie avec l'école diplomatique du Cameroun, donc des futurs leaders. Et pas seulement camerounais, mais aussi tchadiens, nigérians, centrafricains. Et donc ces jeunes vivent souvent dans des conditions difficiles à cause du manque d'infrastructures, mais aussi à cause de l'insécurité qui règne dans la ville de Soa. Alors comme je l'ai dit, notre charisme est de vivre ensemble la sainteté en découvrant cette tendresse infinie de Dieu notre Père pour chacun d'entre nous. Et c'est donc de cela que nous parlons aussi dans l'apostolat. Avec les universitaires, nous avons le PUJ, que vous connaissez peut-être, le Parlement universel, Parlement universel des jeunes, qui est un forum permanent de dialogue pour réfléchir et pour confronter les idées sur des questions de société, afin de proposer des moyens pour restaurer l'humanité et à partir de notre propre engagement personnel. Et c'est très riche, parce que vous savez que c'est ouvert à plusieurs religions. Bien sûr, dans notre mission, nous sommes parfois appelés à ce qu'on a l'habitude d'appeler des œuvres de miséricorde, non ? Par exemple, nous allons aider financièrement ceux qui en ont besoin, peut-être pour des soins, pour des scolarités. Nous allons visiter les malades, les prisonniers. Ce que d'autres ONG font également, et souvent mieux que nous. Mais nous avons la chance, comme apôtres, avec la grâce de Dieu, car c'est l'Esprit Saint qui le fait, de pouvoir donner et de pouvoir partager le bien le plus grand, qui est Dieu lui-même. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit que l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Et je crois que c'est vrai qu'on le constate chaque jour. Beaucoup de jeunes qui viennent au centre catholique universitaire à Soa vivent dans des familles très compliquées. Nous avons plusieurs témoignages de filles qui ont été violées dans leur propre famille. Et à cela s'ajoutent les problèmes économiques, l'absence de modèle. Donc certains se sentent à la dérive. Et le CCU, le Centre catholique universitaire, leur donne l'occasion de pouvoir connaître l'amitié dans une ambiance de paix. Nous organisons parfois ce que nous appelons Motus Christi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Motus Christi, ça veut dire mouvement du Christ. Parce que la vie spirituelle est en mouvement en nous. C'est une vie, non ? Elle est là pour croître. Et donc nous faisons aussi la même chose. Maintenant, on le fait online. Mais à Soa, bon, on a la chance qu'on n'est pas trop confiné. Donc de pouvoir le faire en présentiel, comme on dit. Et à la fin de cette activité, nous demandons aux jeunes ce qui les a touchés dans ce qu'on appelle la touche charismatique. Et alors, avant, j'étais très surprise d'entendre beaucoup de jeunes dire que ce qu'ils avaient préféré, c'était le repas. Alors je pensais, oh, c'est vrai qu'ils ne mangent pas beaucoup chez eux, dans leur chambre. Enfin, quand même, j'espérais qu'ils parleraient un petit peu de nourriture spirituelle. Mais en fait, j'ai compris un jour quand une jeune m'a expliqué que c'était la première fois qu'elle avait parlé aussi librement durant le repas sans avoir l'impression d'être jugée par les autres. Et pour beaucoup, partager le repas durant ces partages, durant ces rencontres, dans la joie et l'amitié, est une expérience qu'ils n'oublient pas. Alors, comme vous le savez, la culture africaine est très différente de la nôtre. Et beaucoup d'Africains vivent immergés dans des problèmes liés à l'animisme, à la sorcellerie. Nous ne savons pas toujours comment répondre à leurs angoisses. Et je me souviens d'une jeune universitaire que Rousteau a dû connaître et qui m'a parlé de choses vraiment très étranges que je ne pouvais pas comprendre à cause de ma culture. Et après l'avoir écouté une heure, je lui ai dit « Regarde, le Christ a croisé une multitude de démons et de personnes qui en voulaient à sa vie, comme à Nazareth, quand ils le jetèrent hors de la synagogue et l'amenèrent à un escarpement de la colline pour le précipiter en bas. Et l'Évangile nous dit « Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. » Enfin, c'est dans Luc, chapitre 4, verset 30. Et après, je lui ai dit, « Va voir un prêtre camerounais qui pourra mieux te conseiller, parce que c'est sa culture. » Et elle m'a répondu, « Je suis déjà allée voir un prêtre. Il m'a imposé les mains, mais cela ne m'a pas enlevé l'angoisse que j'avais. » Et après avoir entendu ce passage d'Évangile, j'ai retrouvé la paix. Et là, on découvre à quel point l'Évangile est une arme puissante et que ça vaut pour toutes les cultures. Alors, je pourrais également vous parler de Jeanne. Nous avons connu Jeanne quand elle avait 19 ans, parce qu'elle venait à la jeunesse Idemte. Et il y a eu une explosion de bonbonnes de gaz et elle s'est jetée dans le feu pour sauver sa maman. Toutes les deux étaient brûlées. Et au bout d'un moment, on a transféré sa maman aux soins intensifs, tout en disant à Jeanne qu'elle était dans un autre hôpital. Et elle est morte quelques jours après. Moi, je visitais Jeanne tous les deux jours pour lui porter la communion. Et un jour, c'était un dimanche, alors que je n'avais pas eu l'occasion de la voir ni de lui porter la communion, je rêvais d'elle, et dans ce rêve, je lui parlais de la communion de désir. Et je ne sais pas ce qu'elle me disait, je n'ai jamais su ce qu'elle me disait dans ce rêve, mais elle me tutoyait. Et ça m'avait frappée parce que dans la réalité, elle ne m'avait jamais tutoyée. Jeanne, en fait, est morte cette même nuit. Et avant de mourir, elle a dit à son père et à sa sœur qui étaient avec elle à l'hôpital, « Pourquoi vous m'avez dit que maman était à l'hôpital, à l'autre hôpital? Je la vois, elle vient me chercher. Moi aussi, je vais partir. Mais ne me pleurez pas. Je ne vous appartiens déjà plus. J'appartiens à tout le monde. Quand on m'a raconté ces paroles, j'ai fait le lien avec mon rêve où elle me tutoyait. Parce que je crois qu'étant au ciel, elle connaissait déjà la profondeur du mystère de l'Eucharistie. Elle était déjà dans cette sagesse. Et ces paroles, « j'appartiens à tout le monde », m'ont semblé une définition très simple et très belle de la communion des saints. Tout le monde peut me prier, même sans me connaître, même sans être membre de ma famille. Mais elle m'a fait aussi percevoir une autre réalité. Quand nous recevons l'Eucharistie, nous recevons le Christ, mais aussi tout le corps mystique dont il est la tête, c'est-à-dire tous les saints, le ciel entier. Et pour moi, c'est un grand mystère qui m'a souvent aidée dans la réception de l'Eucharistie, de penser que je recevais tous ces saints et tout ce ciel en entier. Alors, nous pouvons changer la vision de ces jeunes qui nous sont confiés, parce qu'ils se sentent aimés par un Père céleste. Et nous sentons qu'en les écoutant, en les aimant tels qu'ils sont, certaines blessures peuvent guérir. Notre fondateur disait « Dire Père, ce n'est pas simplement prononcer ce mot, mais c'est lui donner le meilleur de notre vie. Parcourant le monde, pour l'annoncer à tant de millions de personnes qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas qu'elles sont aussi ses enfants. Il y a ceux qui le rejettent, ceux qui nient avoir un Père absolu, éternel, céleste. Il y a ceux qui ont le sentiment de n'être les enfants de personne, de n'avoir ni origine, ni destinée non plus, de n'être venu de rien et de ne retourner à rien. Et surtout, ils en viennent à considérer qu'ils ne sont eux-mêmes rien. » Enfin, c'était ce que disait notre fondateur. Ces paroles nous poussent à vivre la mission là où nous sommes pour porter l'espérance, pour nous donner mutuellement Dieu en retrouvant notre véritable identité comme enfant de Dieu. Et je crois que c'était Gilbert Cesbron qui disait cette petite phrase « C'est parce que Dieu me dit « tu » que je peux dire « je ». Et je termine par d'autres paroles de Fernando Riello. L'apôtre apparaît comme cet être privilégié, peut-être envié, qui possède avec cette béatitude une paix, une liberté et un bonheur que les autres ne possèdent pas. Avec sa liberté, l'apôtre enseigne la liberté. Avec sa paix, il enseigne la paix en pacifiant. Avec son bonheur, il apprend aux autres à être heureux. Et c'est pour vous dire que je voudrais terminer, vous voyez, je n'ai pas été trop longue, avec ce sentiment de gratitude envers Dieu, mais aussi pour vous encourager toutes à être ses apôtres, là où vous êtes, et pourquoi pas pour certaines d'entre vous à vous consacrer, car je crois que la France a besoin de témoignages de vie authentique. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop vite.